Moitié André du Mouchmaï au Cassin Oriental. J'ai repris totalement cette
idée. Moi, c'est Céline de Bombati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie des présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre espace d'échange citoyen. La France encourage la République démocratique du Congo à ratifier l'accord de Paris sur le climat. À travers une correspondance envoyée à son homologue congolais, Ségolène Royal, ministre française de l'Environnement, souhaite que la RDC ratifie cet accord car le pays possède des massifs forestiers très importants pour le climat de la Terre. Pour certains analystes, ce plaidoyer est opportun parce que l'accord de Paris facilitera la RDC de bénéficier des différents fonds destinés à la lutte contre les changements climatiques. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-6315 pour vos interventions en direct. Mais le débat se déroule également sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Alain Goy est à la mise en onde, Julie Feza est au standard. Jérôme Diombo réalise et coordonne ce magazine que Pierrot et la Mégie vous présente sous la supervision de Martin Sebouzan, de fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et pour parler de cette question du climat, nous recevons dans ce studio le professeur Chouban Kalala, expert en droit de l'environnement et auteur du livre « Droit international et droit congolais de l'environnement ». Professeur Chouban Kalala, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Pierrot et la Mégie. Merci pour avoir invité.
Et c'est un plaisir de vous recevoir cette fois-ci pour parler environnement. On vous a reçu pour des questions juridiques et politiques, mais la question de l'environnement, c'est une nouveauté aussi pour quand on vous reçoit comme invité.
Merci. Comme vous le dites vous-même, je suis spécialiste de cette question parce que j'enseigne le droit international de l'environnement à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et je viens de publier un livre de 983 pages, un code, le code du droit international et congolais de l'environnement, qui a été baptisé par le président du Sénat, où j'expose toutes les grandes conventions internationales, africaines, en matière de protection de l'environnement et selon aussi les lois congolaises qui ont été adoptées au cours des dernières années, de décrets pris par le Premier ministre dans ce domaine. Mais avant d'aborder ce sujet, Pierrot et la Mégie, vous voyez le deuil qui frappe le peuple congolais.
Exact.
Je tiens d'abord à présenter mes condoléances à la famille biologique du président Tshisekedi, à son parti politique, à tous ceux qui l'ont aimé comme moi. Nous perdons un grand baobab et moi personnellement, je perds mon père politique, mon père spirituel, sur le plan politique. Nous allons parler de l'environnement au cours de cette émission. Et puis, il y a une coïncidence. Le samedi 24 décembre, pendant 3 heures, de 18h à 21h, je suis assis aux côtés du président Tshisekedi, chez lui à la maison. Le rassemblement ou le conseil des sages venait lui rendre compte des travaux qui venaient de se terminer le matin au centre intérieur 6h, le 24 décembre, samedi. À la fin de cette réunion, j'ai demandé à le voir pour lui dire au revoir parce qu'il devait aller à Paris et récupérer le livre qui venait de sortir à Paris et exposé à la librairie des éditions L'Armateur. L'abbé Kilomba lui dit, voilà, le professeur Kibam vient vous dire au revoir, vient vous saluer, je vais le recevoir. Il dit, oh oui, dites au professeur de venir me voir. Je suis resté avec le président Tshisekedi pendant 3 heures. Et au cours de notre entretien, je lui ai parlé de l'environnement pendant 3 heures. En présence de Mayo Tatamapasa, son secrétaire particulier, et de Mbouyémé, l'un vétéran de l'UDPS. J'ai dit au président Tshisekedi, président, nous avons une richesse extraordinaire dans notre pays. c'est la forêt de la Vénitienne. Le cuivre peut s'épuiser, le diamant peut s'épuiser, l'or, etc. Mais la forêt ne peut pas s'épuiser. C'est une ressource renouvelable. Et il y a des milliards de dollars disponibles dans le monde auxquels notre pays peut accéder en présentant des projets et attirer cet argent dans notre pays pour lutter contre la pauvreté. Et je vois le président qui se dit très content en train de secouer la tête. Les fameux 5 milliards du fonds vert pour le climat, on en parlera au cours de cette émission. Je lui parle de l'agriculture. Je dis, le président, je ne sais pas, vous avez connu la prospérité de l'agriculture dans notre pays à l'époque des Belges. Je ne sais pas s'il faut aller chercher les Belges pour qu'ils reviennent dans notre pays, parce que nous avons une capacité, la RDC, de nourrir 2 milliards d'individus. Mmh. 2 milliards d'individus. Donc l'Amérique, l'Europe et l'Afrique, on peut nourrir avec les 80 millions de terres. Et on en parlait au cours de cette émission. Le président, je le vois comme s'il se réveillait, très content. Il a dit, voilà, président, je vais à Paris parce que je vais publier un livre pour expliquer tout ceci. Et je vais faire une semaine, je reviens. Je vais d'ailleurs, à mon retour, vous offrir ce livre que j'ai rédigé, en tout cas pour notre pays, et c'est très important. Et on se sépare, il me dit, professeur, bon voyage, je vous attends à votre retour.
Et le destin a décidé autrement.
Donc voilà, je suis triste, je dis comme vous tous, comme notre peuple.
Exactement.
Je viens de perdre un père. J'ai appris la politique depuis l'âge de 24 ans. Pendant plus de 20 ans, 25 ans, j'ai appris la politique sous les épaules du président Tshisekedi. Parce que j'étais très actif dans l'UDPS depuis l'âge de 23 ans jusqu'en 2006 quand je me suis présenté aux élections comme député indépendant. Donc c'est mon père.
Dommage. On l'a rendu hommage hier dans une émission à chaud et j'ai rendu mot pour revenir encore le lundi pour une émission sur les acquis et la lutte du président Étienne Tshisekedi. Alors, si nous pouvons revenir à notre sujet, Ségolène Royal, ministre française de l'Environnement, écrit à son homologue congolais pour exhorter la RDC à ratifier rapidement l'accord de Paris sur le climat. Est-ce qu'on peut permettre aux auditeurs de comprendre c'est quoi l'accord de Paris sur le climat, professeur?
Merci, Pierrot. C'est très important, il faut peut-être que je fasse un peu plus de pédagogie pour que les auditeurs de Radio Okapi ou au-delà, notre peuple comprennent c'est quoi l'accord de Paris sur le changement climatique. Il faut savoir que depuis le 18e siècle, en 1750, donc les historiens ont daté ça, 1750, c'est le début de l'industrialisation de l'Europe, de l'Amérique. Donc c'est l'ère industrielle. Avant 1750, c'est ce qu'on appelle la période pré-industrielle. Donc avant. On a constaté, les spécialistes ont constaté que depuis 1750 jusqu'à aujourd'hui, la température de la planète augmente de presque environ 1 degré Celsius. La chaleur augmente sur la Terre. Ils ont démontré que cette augmentation est due, pour 90%, due aux activités de l'homme. Et quelle activité de l'homme? L'industrialisation. Nous avons des cimenteries qui dégagent dans l'atmosphère les gaz à effet de serre. Les cimenteries passent. Nous avons des tuyaux d'échappement de nos véhicules qui dégagent le dioxyde de carbone, le gaz carbonique, etc. Donc l'industrialisation a fait que le dégagement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère a augmenté. Et ce qui a augmenté aussi la température sur la Terre. Et cette augmentation de la température a des effets néfastes sur la vie sur la Terre. Par exemple, comme effet transitoire, il y a les pluies torrentielles, il y a les typhons, les ouragans, il y a la sécheresse, il y a la fonte des glaces. Et la fonte des glaces entraîne l'augmentation du niveau des océans et menace les villes côtières, etc. Et donc, l'agriculture est menacée. Parce que quand la température augmente, ça augmente aussi la naissance de certaines maladies qui attaquent les plantes, qui attaquent les herbes, etc. Et donc, la vie sur la Terre est menacée parce que l'homme a vécu pendant des millénaires, c'est pas des millions et des millions d'années, avec un certain niveau de température. Maintenant, quand la température augmente, ça crée des problèmes. Les conséquences sont là. Vous allez parler brièvement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? pour que la température sur la Terre n'augmente pas et ne crée pas des effets néfastes, en particulier sur la biodiversité. Mm-hmm. Parce qu'on va voir certains oiseaux qui disparaissent, certains animaux qui disparaissent, des insectes qui disparaissent, les abeilles. Nous avons besoin des abeilles. C'est leur rôle. Vous savez, tout ça risque d'être attaqué, la disparition de certaines espèces, animales ou végétales, à cause de la l'augmentation
de la température.
De la température, ce qu'on appelle le changement climatique, on est bon. Mais c'est surtout l'augmentation de la température. Maintenant, que faire pour réduire cette augmentation, pour qu'elle reste à un niveau? Les auditeurs doivent savoir que la température moyenne sur la Terre est de 15 degrés Celsius. 15 degrés Celsius. Parce que la Terre est froide. Mm-hmm. La Terre est très éloignée du Soleil. Et s'il n'y avait pas ces gaz à effet de serre pour maintenir cette température à 15 degrés, la Terre serait froide à moins 18 degrés.
Mm-hmm.
Moins 18 degrés Celsius. Donc la vie sur la Terre aurait été impossible. Mais c'est grâce à la température qui est maintenue sur la Terre, 15 degrés en moyenne, que nous avons la vie sur la Terre. Mais il ne faut pas que cette température augmente, de manière exagérée, avec les gaz à effet de serre. Que faire? La communauté internationale a commencé à se réunir avec les savants, les spécialistes, pour dire que s'il faut qu'on ramène le niveau de notre température à un niveau acceptable, il faut faire en sorte que d'ici la fin de ce siècle, que la température de la Terre ne puisse pas augmenter au-delà de 1 degré et demi Celsius, maximum 2 degrés, il faut être en dessous. Là, on va sauvegarder la vie sur la Terre. Et que faire en ce moment-là? Il faut qu'on puisse réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le gaz méthane et surtout le dioxyde de carbone. Maintenant, que faire? Il faut que les pays riches, les pays industrialisés, parce que c'est eux qui polluent l'atmosphère, qui émettent les gaz à effet de serre depuis le 18e siècle, il faut que ces pays réduisent les émissions de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Maintenant, que faire? Il y a des pays pauvres qui, eux, n'ont pas contribué, comme la RDC. La RDC n'est pas un pays industrialisé, n'a pas contribué à l'augmentation de la température sur la Terre.
Mais il a subi les conséquences
de cette augmentation. À cause des pays riches. Alors, on a mis en place un principe universel, c'est le principe des responsabilités communes mais différenciées. On dit, voilà, nous allons tous lutter ensemble pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Chaque pays doit apporter sa contribution pour qu'on puisse réduire. Mais attention, il y a des pays qui ont une plus grande responsabilité parce qu'ils ont pollué l'atmosphère depuis le 18e siècle. Ces pays-là doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais en même temps, ces pays doivent sortir de l'argent pour donner aux pays en développement, comme la RDC, les pays pauvres, qui n'ont pas pollué la planète, pour que ces pays puissent engager des programmes, des actions pour éviter les émissions des gaz à effet de serre dans leur propre pays. D'un côté, c'est ce qu'on appelle atténuation, réduire. D'un côté. Et de l'autre, comme vous venez de le dire, Pierrot, ces pays ont subi ou subissent déjà des conséquences néfastes des émissions de gaz à effet de serre, de l'augmentation de la température. Il faut aussi leur donner de l'argent pour qu'ils puissent faire face
à ces conséquences.
C'est ce qu'on appelle adaptation. Il faut qu'ils puissent s'adapter au changement climatique. Alors, il fallait trouver un accord universel qui engage tous les pays du monde. Il y a eu plusieurs tentatives, des années qui échouaient. Finalement, on s'est retrouvé à Paris au mois de décembre 2015 pour adopter l'accord de Paris, le 12 décembre 2015, accord de Paris sur le changement climatique. Dans cet accord, qu'est-ce qui est prévu? En résumé, deux choses. Tout le monde doit contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Tous les pays doivent s'engager, sans exception. Ça, on a obtenu. Deux, les pays riches qui ont pollué la planète depuis le 20e siècle doivent sortir de l'argent. 100 milliards de dollars chaque année jusqu'en 2020 pour mettre dans un fonds qu'on appelle le fonds vert pour le climat. 100 milliards à la disposition des pays pauvres, de la RDC aussi, pays pauvres. Et après 2025, on va faire une révision mondiale pour savoir est-ce qu'au lieu de 100 milliards, on peut encore augmenter, aller au-delà de 100 milliards. Parce que la survie de l'humanité en dépend.
Mm-hmm.
Voilà les deux contrats. Alors, il y a eu, tous les pays ont ratifié, ont signé. J'ai fait le décompte hier, comme je suis la question au jour le jour, sur 197 pays, plus l'Union européenne, y compris l'Union européenne, 194 ont déjà signé cet accord de Paris. Il reste trois pays qui vont signer, alors nous allons avoir ce qu'on appelle la ratification universelle.
Mm-hmm.
C'est une prouesse sérieuse. Sur ces 194 pays qui ont déjà signé, il y a 127 qui ont déjà ratifié. Alors, notre pays a signé le 22 avril 2016. Nous avons vu le président de la République, qui a bien fait, il est allé à New York, on l'a vu en direct, en train de signer cet accord de Paris devant le monde entier. C'était très bien, c'était une bonne décision du président d'être allé lui-même sur place. Il a signé. Mais il ne suffit pas de signer. Maintenant, il faut ratifier pour que cet accord entre dans notre ordre juridique et que nous puissions aussi profiter de toutes ces profits. Parce que si vous n'avez pas ratifié,
il n'y a pas moyen de pouvoir accéder.
Oui, quand vous allez déposer des dossiers, on va vous dire, monsieur, mais oui, c'est bien beau, mais vous avez signé, mais il faut quand même ratifier parce que tout ça, cet argent, ça fait partie de fois, il faut ratifier. Okay. Mais la RDC ne l'a pas encore fait jusqu'aujourd'hui. Je plaide, parce que j'ai encore la parole, je plaide. Je fais une plaidoirie. Je demande au président de la République, parce que c'est lui, le chef, il a signé. Il n'y a plus de problème qui se pose. Le gouvernement, de faire en sorte que, à la session parlementaire du mois de mars, session du mois de mars, qu'on puisse ratifier, que le Parlement vote la loi des ratifications et que le président puisse ratifier ce traité. C'est très important. C'est un document d'un article, c'est un article. C'est pas deux, c'est un article. Ça ne demande même pas des débats. Il n'y a pas de débat au Parlement. On vient juste expliquer ce texte par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'Environnement. Il explique au Parlement. Il n'y a pas de débat parce que c'est un traité international. On n'a même pas changé une virgule dans le traité. Donc, c'est juste l'exposé des motifs, la loi, on l'explique.
Et puis l'article de ratification.
Voilà.
On va revenir sur ça, professeur, et toutes les procédures. Nous avons les auditeurs qui sont en ligne, Confiance, qui est à Kinshasa, Maître Adrien Kamanga et Franck Avienne. Confiance, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Mbote Jambo, à tous les occupistes de la radio de la paix, et surtout mes condoléances à toute la nation congolaise qui vient de perdre quelqu'un qui défendait réellement les intérêts de Congolais.
Vous avez suivi l'introduction avec le professeur, on exhorte la RDC et les places que nous occupons sur le plan mondial par rapport au climat de la Terre. Quel est votre point de vue, Confiance?
Oui, c'est avec beaucoup de remerciements que j'interviens parce que le professeur a vraiment fait une leçon pédagogique pour même les gens qui n'ont pas de notion de l'environnement. C'est ce que j'ai toujours dit à la radio Capi, ce ne sont pas des hommes qui peuvent faire quelque chose dans ce pays qui manque, mais c'est beaucoup plus la volonté politique. Nous avons des choses qui peuvent faire de nous un pays très riche, un pays très puissant. Et moi, je pense qu'il va falloir que nous ayons aussi des autorités capables de défendre cette chose. Je suis d'accord pour la ratification parce que sans cette ratification, il ne serait pas possible que nous soyons admis pour les intérêts que tout ça, cela peut produire. Et moi, je pense vraiment que l'environnement, à lui seul, peut faire en sorte que le Congo soit beaucoup plus visible, soit beaucoup plus riche et ne se plaigne pas de petits moyens. Parce que moi, je vois, quand on parle de 100 milliards, c'est énorme, c'est exorbitant. Et jusque-là, on n'a même pas encore parlé du crédit carbone. On n'a même pas encore parlé de l'agriculture. Donc, si on mettait tous ces éléments ensemble, je pense que avec l'environnement, avec l'agriculture, avec ce que Dieu nous a donné dans la nature, sans aller dans le minerai, nous pouvons élever ce pays et faire en sorte que nous ne plaignons pas pour des petites choses. Et moi, je pense que ceci ne peut être possible. Il doit se faire soit avec des autorités légitimes et légales, et surtout ceux qui défendent réellement les intérêts du Congo et surtout les intérêts des Congolais. C'est la raison pour laquelle moi j'insiste pour que ceux qui vont pour ce genre de négociations placent toujours la barre un peu plus haut, parce qu'en réalité, nous avons la plus grande partie de la forêt équatoriale. Moi, j'aurais même souhaité que la plupart des formations actuellement, la plupart des enseignements à l'université aillent dans ce sens-là, que l'on forme des environnementalistes, qu'on fasse des échanges de connaissances à ce niveau-là. Et moi, je pense qu'il serait aussi mieux que quand on parle de la ratification au niveau le plus haut, que l'on en parle aussi avec la sensibilisation à la population qui, en soi, ne comprend pas ce qu'il y a au juste. C'est un de ça qui peut une partie détruire. Moi, je pense que cet échange-là peut faire en sorte que tout ce qui détruit l'environnement soit compensé par quelque chose qui va dans le sens du développement énergétique, par exemple. Merci. En sorte que nous défendions notre environnement qui peut nous enrichir.
Merci beaucoup, Conscience. Vous avez évoqué la question de la volonté politique. Et rappelons quand même que Radio Capi plutôt avait posé cette question à M. Hans-André Djamba, qui est le coordinateur national du Fonds vert pour le climat, autour de la ratification. Il a estimé que d'ici là, il espère que d'ici le mois de mars, la convention pourra être, l'accord pourra être ratifié, les travaux serrés entre les membres d'une sous-commission au niveau de l'Assemblée nationale. Mais rappelons quand même qu'il y a beaucoup de conventions qui sont en souffrance dans notre pays, y compris celle-ci. Alors, la volonté politique peut faire assez qu'on puisse y arriver. Donc, vous avez ajouté une dimension, confiance, c'est comment ramener tous ces accords, toutes ces histoires auprès de la population, qu'elle comprenne, parce que des fois, c'est elle qui subit ou elle peut aussi être responsable. Merci beaucoup, confiance. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, Pierrot et la Ménji. Bonjour aussi à professeur Chibango Kalala.
On vous écoute, maître.
Oui, merci, Pierrot, comme tout Congolais qui se respecte. Permettez-moi de présenter mes vœux. Donc, mes condoléances à tous les peuples congolais pour la disparition de notre père de la démocratie, M. Étienne Tshisekedi, du que son âme repose en paix. Par rapport au sujet du jour, Pierrot, je remercie aussi le professeur Chibango Kalala parce qu'il n'a pas fait seulement les analyses, mais il a dispensé donc les cours de l'environnement pendant quelques minutes que vous lui avez donné. Je pense, Pierrot, premièrement, je prends d'abord la convention en soi. Je veux rendre compte que j'ai essayé un peu de parcourir cette convention. Vrai, d'une manière générale, elle est bonne, mais il faut aussi relever certaines faiblesses de cette convention. Notamment, c'est lorsque cette convention donne l'obligation à tous les pays donc, de se battre pour lutter contre le réchauffement climatique. Là que moi je me suis dit, ce n'était pas du tout correct pour qu'on puisse mettre tout le monde dans le même sac. Cette convention pouvait faire l'obligation aux pays pollueurs de se battre, parce que je me pose la question de savoir qu'est-ce que la RDC pourra faire. Un effort lorsque la RDC n'a pas vraiment d'industrie, n'a pas assez d'éléments qui font à ce que le climat soit dérangé. Deuxièmement, voilà, vous rendre compte que cette convention ne fait même pas la part des choses lorsque je pense toujours notre pays. Parce que tout le monde est en train de regarder la forêt équatoriale de la République du Congo. C'est cette forêt-là qui pourra vraiment faire à ce que le climat soit un tout petit peu stabilisé si le grand pollueur ne parvenait plus encore à le faire comme d'habitude. Mais qu'est-ce que ce pays-là, donc la RDC, pourra bénéficier comme avantage? C'est comme ça, même lorsqu'il y a une résignation en ce qui concerne la ratification de cette convention, moi je me dis, c'est vrai, je ne suis pas du gouvernement, est-ce que le gouvernement ne se pose-t-il pas aussi ce genre de questions? Il dit qu'est-ce qu'il faut ratifier pour le simple plaisir de ratifier. Voilà un peu quelques faiblesses. Maintenant, par rapport à notre pays, je pense qu'il y a un certain problème qui se pose, parce que jusque-là, la RDC n'a pas encore compris l'importance de cette donc de ce domaine là, l'environnement. C'est comme le professeur venait de le dire, tout peut être épuisé, mais sauf ce domaine là. Ce domaine restera donc demeurera éternellement. Aujourd'hui, lorsque nous jetons un coup d'œil sur certains pays africains, je prends comme ça le Sénégal, je prends comme ça la Côte d'Ivoire, hein, ces pays-là qui ont compris qu'est-ce que la forêt au jour d'aujourd'hui. Ces pays-là, même si il y a crise de quoi que ce soit, mais ces pays-là restent intacts parce qu'ils sont en train d'exploiter leur sol. C'est comme ça que la République démocratique du Congo doit aussi s'aligner sur cette voie-là pour donner d'abord, donc pour faire de l'agriculture, pour faire de la forêt une priorité des priorités.
Alors, quand vous évoquez la question de la priorité, maître Adrien, c'est très important, mais du moins, le professeur pourra nous dire s'il y a de failles. Vous estimez que le fait que l'accord puisse mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en termes de responsabilité pour la réduction de gaz, alors qu'on n'a pas pollué de la même manière, il fallait faire un distinguo entre les pollueurs dans leur engagement, ainsi que ceux qui subissent cette pollution, mais aussi un traitement particulier pour un pays comme la RDC qui détient quand même la réponse à cette question du climat. Et d'un côté, vous estimez qu'est-ce que cela ne peut pas aussi être à la base de l'hésitation pour la ratification. Merci beaucoup, maître Adrien Franck. Merci d'être avec nous de Vienne. Merci, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, M. Kiro. Bonjour aussi au prof. J'estime, quand je l'écoute, on fait manquer à tout ça. Encore, mes sincères condoléances et compassion à toute la nation congolaise pour la triste expérience que nous sommes en train de traverser. Je viens de suivre les profs avec beaucoup d'attention. Je dois vraiment lui dire merci pour les explications techniques et scientifiques qu'il vient de nous donner en quelques minutes que vous lui avez déjà accordées. Je partage son opinion par rapport à ce qu'il vient de dire, parce que l'actuel débat sur les questions écologiques et environnementales concerne aussi la République démocratique du Congo comme État et a des espaces de vie pour les citoyens de ce monde. Et à cela, si nous devons nous référer à la position géostratégique de notre pays, et surtout vu ses réserves forestières par rapport à ce que le monde entier possède, c'est tout à fait normal que toutes ces questions débattues en dehors de nos frontières bénéficient aussi de notre implication, car nous vivons dans le même monde avec les autres. Jusque-là, je crois qu'il n'y a pas à discuter, les profs ont totalement raison. Mais le problème se pose à un certain niveau parce que le débat écologique, comme il venait de le dire, a une certaine genèse depuis le 18e siècle avec l'événement de l'industrialisation. Il a très bien dit que les pays qui ont beaucoup travaillé du côté industriel, les pays qui ont beaucoup d'industrie, doivent aussi subventionner le coût de toutes ces activités. Jusque-là, on ne va pas discuter. Mais le problème, moi, je trouve, comme le maître Adrien venait de le dire, et le premier intervenant qui parlait après le prof, je trouve que le débat écologique chez nous n'est pas encore totalement maîtrisé. Disons que les enjeux de ce débat, c'est encore seulement au niveau d'une sphère d'intellectuels. Et même pas tous les intellectuels, ce sont des intellectuels qui ont une certaine vision du futur, qui voient très loin, qui cherchent un peu à s'intégrer, à s'informer par rapport à tout ce qui se passe dans tous les coins du monde. Ça, c'est un. Puis de deux, je crois que le prof pourra peut-être essayer un peu d'éclairer ce que je suis en train de dire. Par rapport à ces pays industriels, par rapport à ces pays fortement développés, par rapport à ces pays déjà avancés sur le point de vue industriel, ils ont pris des dispositions pour passer de l'économie traditionnelle à l'économie prévisionnelle de marché. Ça signifie que dans un pays comme la France, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, partout où il y a des grandes industries, les gens ne sont plus dépendants, par exemple, de la présence d'une forêt à côté. Ils ont des supermarchés, ils ont pris des dispositions pour que les gens puissent s'approvisionner à partir de ce qui est mis dans les supermarchés. Mais ce n'est pas encore le cas avec chez nous. Je crois que le problème ne se pose pas seulement par rapport aux populations des centres urbains, mais surtout par rapport aux gens qui habitent dans des milieux lointains, qui dépendent d'une forêt, des gens qui sont dans des milieux traditionnels, dans des milieux vraiment paysans. Alors, si maintenant on doit leur interdire de se servir de la forêt qui leur permet d'avoir accès à la nourriture, d'avoir accès au bois de chauffage, d'avoir accès aux feuilles de manioc, aux légumes, d'avoir accès à tout ça, ça risque encore d'être assez difficile. Alors moi, je trouve que le débat sur l'écologie, ça doit être enseigné dès maintenant, dès le bas âge. Parce que ici en Europe, l'écologie s'enseigne déjà dès la famille, dès l'éducation déjà de la maison. Donc on apprend aux enfants à trier, par exemple, cette poubelle c'est pour les sachets, cette poubelle c'est pour ceci, et au niveau des mairies, il y a des dispositions qu'on a prises pour que ça soit déjà respecté, puis il y a tout un service qui est utilisé pour, par exemple, évacuer tous ces déchets-là.
Merci.
Mais ce n'est pas encore le cas chez nous. Alors, moi, je crains que le débat risquerait seulement de rester à une sphère des intellectuels.
Des intellectuels, et cela et la population s'est éloignée.
Au niveau de la base.
Merci beaucoup, Franck. Oui. Vous avez d'ailleurs évoqué le fait que ces pays industrialisés ont accompagné leur économie avec l'accès au marché, l'accès aux services de base. Mais chez nous, si on peut dire qu'on protège la forêt et que par conséquent, il n'y a pas une politique qui permet aux gens d'accéder à l'infrastructure de base, ça risque d'être une inadéquation. Mais aussi, cette question ne doit pas rester entre les intellectuels. Il faut qu'elle soit ramenée au niveau de la population. 081-890-1315 pour intervenir en direct. On va garder Fulgence, qui est un chercheur en droit de l'environnement, qui est avec nous en ligne, Junior Valérie, qui est à Kindu. On va vous accorder la parole après la réaction du professeur au propos des compatriotes qui venaient d'intervenir tout à l'heure.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des hommes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de la comédie sur Radio Okapi. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Professeur, si on peut regrouper le point de vue des compatriotes, il y a d'abord la question, est-ce qu'on doit être traités tous de la même manière alors que nous n'avons pas pollué de la même manière? Est-ce que nos responsabilités sont les mêmes avec les pollueurs? Les autres problèmes, même souhaité que la RDC des pays qui ont des réponses soient prises à part, considérés comme étant des pays qui ont des réponses, on pourrait bien les considérer en tant que tels dans ces traités. Cette question qui reste entre les intellectuels, comment la ramener auprès de la population, mais aussi l'absence des politiques qui peuvent accompagner, n'est-ce pas, ces mesures de protection de l'environnement, d'une manière un peu ramassée. J'ai essayé de regrouper les points de vue de nos auditeurs.
Merci Pierrot. Oui, je remercie Conscience, Adrien et Franck, qui sont des gens brillants, qui ont posé des questions très intéressantes. J'aimerais d'abord régler un problème, rapidement, s'agissant de la ratification, parce que c'est tout de même le centre de cette émission.
Oui.
La question me paraît très simple, parce que sur 154, disons 155 maintenant avec le Maroc, eh bien, il y a déjà 31 pays africains qui ont ratifié. Nous avons des pays voisins comme l'Ouganda, le Rwanda, Centrafrique, la Zambie, le Cameroun, le Gabon qui ont déjà ratifié. Conscience a parlé du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Les deux pays ont déjà ratifié. D'accord. Donc nous sommes un peu à la traîne de la RDC. Ça ne sert à rien d'envoyer ces dossiers-là à JAPU qui a une sous-commission parlementaire, etc. Donc c'est une perte de temps. Ça, moi je proposerais que notre gouvernement, s'il y a déjà un projet qui est présenté, il faut mettre ça en matière d'urgence. Ça se fait, il y a la constitution qui prévoit que quand le gouvernement veut que le Parlement vote une loi de toute urgence, eh bien, on utilise une disposition, je parle de 196, je parle de mémoire, en demandant au Parlement de mettre cette question-là en priorité. Et on peut traiter cette question directement par le bureau de l'Assemblée nationale du Sénat, sans envoyer dans une commission. Ce n'est pas une question compliquée. Et donc, je plaide encore une fois, je répète, il faut que le président de la République donne des instructions rapidement au gouvernement pour que, à la session du mois de mars, sauf s'il y a une session extraordinaire bien avant, qu'on règle cette question de ratification.
Mais est-ce que le fait que la ministre française ait écrit à ce volet congolais, ça montre qu'il y a un agacement quelque part?
Il y a un agacement quelque part. Pourquoi? Parce que la France a utilisé toute sa diplomatie dans le monde pour faire en sorte qu'on puisse voter, qu'on puisse adopter l'accord de Paris.
Mm-hmm.
Parce que la survie de l'humanité en dépend. Pierrot. Et donc, le monde entier, je vais ajouter un élément, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, et même dans l'histoire récente, qu'on voit un traité de cette ampleur qui est signé le 22 avril 2016, et cinq mois après, à peu près, cinq mois, le traité entre en vigueur. Bon, c'est extraordinaire, c'est une prouesse historique, vous avez vu ça. Et le même jour, le 22 avril, on l'a signé, 175 pays signent le même jour. Signent le même jour. Il y en a même qui ont ratifié le même jour.
Mm-hmm.
Ils signent et ratifient des clauses d'embargo, comme c'est le cas de la Somalie et des îles du Pacifique. Le même jour. C'est l'humanité tient beaucoup à cette
chose. Oui.
Et la RDC, qui doit jouer un grand rôle, on va parler dans l'affaire, traîne les pieds, et c'est pour cela que la France, il faut qu'on rappelle, c'est une obligation de rappeler aux États qui ont signé de ratifier l'accord.
Mmh.
Évidemment, l'accord est déjà.
Oui. Ah,
maintenant,
oui, on disait tout à l'heure.
Il y a un problème, effectivement, qui demande une explication. Il y a le principe que j'ai développé tout à l'heure, le principe des responsabilités communes mais différenciées. J'aimerais dire à Adrien, maître Adrien qui parlait des faiblesses, pourquoi on met tout le monde dans le même panier. La planète Terre, c'est notre maison commune. Cette planète est en train de brûler. Et donc, nous devons tous faire des efforts pour arrêter l'incendie.
Mmh.
Ce n'est pas le moment de dire, oui, mais c'est toi qui as allumé le feu, moi je ne l'ai pas allumé. Non, il ne faut plus discuter. Il faut éteindre le feu. Parce que c'est notre maison commune. Mais on a été réaliste. On dit, mais attention, mais moi, RDC, moi je n'ai pas pollué la planète depuis des siècles. Effectivement, Adrien a parfaitement raison, la RDC c'est un pays peu émetteur de gaz à effet de serre.
Mm-hmm.
Donc, quand on voit le bilan qui a été établi dans les documents que j'ai consultés, c'est peut-être 0,05%. Dans les 100% d'émissions, la RDC, vraiment, c'est négligeable. C'est vrai. Mais la RDC a beaucoup à donner. C'est pour cela qu'on a dit oui. Pays riches, nous sommes d'accord. Nous avons pollué, nous avons notre responsabilité. Nous allons, en vertu du principe pollueur-payeur,
mm-hmm.
c'est lui qui pollue, c'est là, il paye. On a pris ça en compte. Et puisque vous avez pollué depuis des siècles, vous devez maintenant donner beaucoup d'argent pour qu'on puisse bien, nettoyer ce que vous avez fait. Ils sont d'accord. D'où la création du fonds vert pour le climat de 100 milliards de dollars. Et on donne à RDC la possibilité d'accéder à ce fonds-là. Mais qui peut accéder à ce fonds? Même les entreprises privées. Si Maître Adrien connaît des sociétés, des ONG, des entreprises qui peuvent venir avec des projets de développement qui ont un impact positif sur la réduction des gaz à effet de serre, sur le climat, eh bien, nous avons le fonds vert, il faut aller au ministère de l'Environnement, on va vous expliquer comment préparer ces projets, quelles formules remplir, ça passe par le gouvernement jusqu'au fond. Donc, il y a des opportunités. L'accord de Paris sur le changement climatique ouvre une grande fenêtre d'opportunités pour notre pays. C'est pour cela que je dis pour qu'on puisse accéder. Et donc, la maison brûle, tout le monde doit avoir sa part. Mais dans la part qu'on donne,
oui.
Les pays pauvres doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme les pays riches, responsabilité commune, pas de notre maison, mais il y en a qui doivent faire plus que les autres,
mais,
les pays riches.
Voilà, tant qu'elle est revenue sur ça, ça a été même dit aussi par Adrien,
oui.
Est-ce que la RDC considère la question du climat comme une priorité aujourd'hui, alors qu'elle détient la réponse?
La RDC détient la réponse, mais pas seulement la RDC. Il faut peut-être dire aux auditeurs de Radio Capi que quelle est la solution de la RDC? C'est la forêt. Tout le monde sait ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire la forêt, c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. La forêt dégage l'oxygène dans l'atmosphère et absorbe le gaz carbonique. C'est pour cela qu'on demande aux Congolais de ne pas rester sous les arbres pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, la forêt, les arbres dégagent le gaz carbonique. Vous allez respirer le gaz carbonique, ce n'est pas bon pour la santé. Mais en revanche, il faut rester sous les arbres pendant la journée, parce qu'en ce moment, les arbres dégagent l'oxygène qui est bon pour notre santé. Et donc, c'est ça. Nous avons le deuxième massif forestier du monde. Donc c'est pour cela qu'on dit que la RDC est le deuxième poumon de la planète, après le Brésil. Je signale que le Brésil a déjà ratifié l'accord de Paris, a déjà déposé beaucoup de projets pour avoir l'argent, 5 milliards. Mais nous qui sommes le deuxième, après le Brésil, nous n'avons encore rien fait. Et donc la forêt, c'est une richesse, un patrimoine mondial, un patrimoine de l'humanité qui est dans notre pays. Donc nous devons bien gérer ce patrimoine, qui est notre patrimoine à nous, mais qui profite à toute l'humanité. Et c'est pour cela qu'on met l'argent à notre disposition, pour que nous puissions bien gérer la forêt. Si on coupe les arbres, il faut replanter les arbres. Quelqu'un a dit tout à l'heure en disant, mais comment voulez-vous, on nous demande, hein, je ne sais rien, on nous demande de préserver la forêt, mais qu'est-ce que nous gagnons? Quelle est la contrepartie?
Et même là, on l'a évoqué aussi par rapport à ces populations qui exploitent, justement, à côté, oui.
C'est exact. Donc, Adrien l'a dit, mais quelle est la contrepartie que nous avons? Les gens vivent de la forêt, on lui dit de produire la forêt, qu'est-ce que nous gagnons? La contrepartie, c'est ce que je viens de dire. La contrepartie, il y a ce qu'on appelle le crédit carbone, c'est trop technique à expliquer ici. Mais il y a surtout ce fonds vert pour le climat, où il y a 5 milliards qui sont à la disposition de la RDC et d'autres pays en voie de développement. Ça dépend de nous, de la RDC, du gouvernement et du Congrès, de préparer des projets bancables, si je peux m'exprimer ainsi, de d'introduire ces projets auprès du fonds vert pour le climat. On va nous donner de l'argent pour régler le problème des populations locales. On va dire, voilà, mais les populations locales qui vivent de la forêt, etc., vous demandez qu'ils ne puissent pas couper les arbres pour avoir les makala, etc., couper les arbres pour construire les maisons, mais comment ils vont vivre? Et donc, voilà, avec l'argent, on va faire d'autres projets pour que ces populations ne soient pas obligées à aller couper les bois, mais voilà, pour trouver de revenus. Et ça, c'est un. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle les bénéfices non carbone. Donc, on peut aussi, c'est ça tout le problème des énergies renouvelables. On dit, voilà, on protège la forêt, mais en même temps, il faut développer d'autres sources d'énergie renouvelable. Par exemple, l'hydroélectricité, les barrages, les mini centrales, qu'il faut multiplier sur l'ensemble du territoire, que les populations accèdent à l'énergie électrique. Ils ne vont pas chercher à aller acheter des macalas sur le marché, couper les arbres pour vivre. Donc il faut des énergies renouvelables, ce qu'on appelle des mix énergétiques. Il faut voir dans notre pays, nous sommes gâtés par la nature, Pierre et la Mégie. Nous avons presque 100 000 mégawatts. Et donc nous pouvons fournir l'électricité sur les trois continents, par exemple. Et donc on peut développer Inga, on peut développer d'autres centrales. Il y a à peu près 700, plus de 700 sites répertoriés dans notre pays où on peut construire des barrages et des mini-barrages. Donc, sur ce plan-là, ça dépend de nous, de la RDC, de notre gouvernement, comment mobiliser des fonds nécessaires pour aller vers les énergies propres, qui ne polluent pas, pour aller vers les énergies renouvelables, les énergies solaires, l'éolienne, etc. Surtout l'hydroélectricité, parce que nous sommes gâtés par la nature dans ce domaine, de manière à préserver la forêt. Parce que la forêt va nous apporter énormément d'argent, comme je l'ai dit au président qui s'est dit le 24 décembre dernier, que tout peut être épuisé, le cuivre, l'or, le manganèse, le cobalt, mais la forêt, elle sera là éternelle, c'est à nous de l'entretenir et de l'utiliser pour avoir de l'argent et faire d'autres projets pour le développement de notre pays et lutter contre la pauvreté.
Voilà. Fulgence, vous êtes à Kinshasa, chercheur en droit de l'environnement. Merci d'être avec nous, Fulgence, bonjour.
Oui, bonjour Pierre, bonjour professeur Chibang Kalala, qui a présenté le grand lieu du débat.
Pierre,
je vais dire ceci. La République démocratique du Congo dispose d'une proportion forestier immense. Mis au regard à l'accord qui vient d'être signé par le chef de l'État, l'année passée, je vais dire que cet accord n'apporte rien en termes d'innovation. Les termes qui sont présentés dans cet accord ont été déjà présentés dans les différents accords dont la RDC est signataire. Ce n'est pas cet accord qui a présenté les innovations dont les professeurs ont été parlés. Mais toutes les conventions relatives à l'environnement ont présenté les innovations dont le professeur est en train de décrire. Mais ce que nous déplorons, c'est quoi? Nous allons toucher la question du montant forfaitaire dont nous devons bénéficier, les RDC. Mais le montant forfaitaire, l'argent dans l'accord parle, n'est pas une innovation. Ce montant a toujours été prévu dans tous les accords dont nous sommes signataires. Et ce montant n'est jamais arrivé ici au Congo. Quand vous prenez le protocole de Kyoto sur le changement climatique, quand vous prenez la convention sur la biodiversité, toutes ces conventions prévoient les mécanismes de financement en faveur des pays en développement, dont fait partie la RDC. Mais qu'est-ce que l'Occident cherche vis-à-vis de l'Afrique, notamment de la République démocratique du Congo? Dans tout ce débat-là, on vise sournoisement la République démocratique du Congo qui dispose d'un massif forestier immense.
Ah oui, alors, Fulgence, vous dites qu'il n'y a pas d'innovation. Je voulais vous poser cette question. Alors, pourquoi la RDC n'a jamais bénéficié? Vous l'avez dit que ça ne bénéficie pas. Pourquoi la RDC n'a jamais bénéficié? Est-ce que c'est la faute de l'Occident, comme vous estimez, ou c'est la faute de la RDC?
Mais les pays industrialisés, les pays développés, ne disposent pas de ces fonds-là. Qui doivent apporter ces fonds-là? Ce sont ces pays dont l'exploitation est leur œuvre. Je vais vous dire que l'exploitation forestière, pour le moment, est l'œuvre des pays industrialisés. Nous avons les institutions qui viennent des pays développés, les États-Unis, l'Europe et partout ailleurs. Et je vous assure que ce pays-là, c'est un pays qui devait être à la ligne pour financer, pour transférer les
oui,
fonds.
On vous a suivi.
Ça n'est jamais arrivé. Je vous assure que.
Ah oui, vous dites que ce fonds n'est jamais arrivé. On va vérifier avec les professeurs si jamais tous les fonds promis pour l'environnement, si ce fonds n'est jamais arrivé en RDC. Merci beaucoup. Ingénieur Valérie, en une minute aussi, votre point de vue. Vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour Pierrot et la Mégie, bonjour aux professeurs. Je commence par présenter mes condoléances à toute la population congolaise. Je suis vraiment émerveillé de l'exposé du professeur. Je ne sais pas qu'un juriste pouvait aussi approcher des réalités chimiques. Je connais ses prouesses. Une fois quand tu nous as déjà reçu dans sa résidence, dans le cadre de l'intermutuel Mukalo. Bien, et puisque le professeur est dans la matière et que vous m'avez donné très peu de temps, je dirais ceci. Il est tout à fait nécessaire que la RDC puisse ratifier au motif de son importance, pour autant qu'il régorge les 47% des forêts africaines. Alors, ce qui fait qu'en percevant ce fonds, il va bien réussir et au niveau de la génération et au niveau de l'adaptation. Mais je voudrais, puisque le prof est dans la matière, qu'en termes de diversification de l'énergie, nous pouvons aussi aller vers les centrales nucléaires, d'autant plus que nous avons l'uranium. N'oubliez pas que si la guerre froide, la Deuxième Guerre mondiale avait pris fin, c'était grâce à l'uranium du Congo qui était extrait des mines de Chikologwe. Comment aujourd'hui nous pouvons comprendre que nous qui avons de l'uranium, nous ne pouvons pas l'utiliser pour produire de l'électricité, alors que cela peut bien nous aider à une compensation en cas de baisse du niveau d'eau au niveau de la centrale Inga. Et cela aussi va nous aider même à faire des centrales mixtes, c'est-à-dire combiner les niveaux de, disons, centrale hydroélectrique avec centrale nucléaire. Donc, je pense que c'est de cette manière-là que nous devons avancer. Bref, nous devons signer pour aider la nation tout entière. Le professeur a parlé tout à l'heure de la photosynthèse, mais c'est très important. J'aimerais expliquer cela encore davantage sur le plan scientifique, comme le mot le dit, photo, il y a lumière, synthèse, c'est-à-dire grâce à la lumière et au CO2 qui est dégagé par le règne animal, au niveau du règne végétal, cela, le CO2 se combine avec l'eau sous l'effet de la chaleur pour produire du glucose. Et dans l'entretemps aussi, il peut y avoir, c'est ça la synthèse, donc il y a l'union de ces deux-là sous l'effet de la chaleur, et en même temps aussi que la dégradation fait qu'on puisse dégager du CO2 la nuit. Alors, à ce niveau-là, nous devons aussi planter beaucoup d'arbres, surtout cela s'attira seulement avec les fonds venant de l'extérieur. Et pour aider aussi la population...
Rapidement, Valérie, oui.
Oui, je crois que pour aider la population, grâce aux mêmes fonds verts, on peut bien alimenter des panneaux solaires à la population qui vit dans les milieux forestiers.
Voilà, c'est ce que le professeur disait tout à l'heure. C'est tout ça, Valérie, qui est...
Merci.
C'est tout ça qui est l'importance de pouvoir ratifier. Professeur, placez un mot rapidement, on va revenir à Omar. Notre ami Fulgence dit que c'est de la poudre aux yeux, tous ces fonds. C'est pas une innovation, on a toujours parlé de 5 milliards, mais la RDC, les CPI n'ont jamais mis la main à la poche pour sortir ces fonds, et le Congo n'a jamais bénéficié de cela. Est-ce que vous avez cette information selon cette scepticisme de Fulgence rapidement?
Monsieur Fulgence n'a pas ces informations. J'étais à une conférence à Bonn en Allemagne au mois de juin.
de l'année dernière et au mois de
avant la COP 21.
Avant la COP 21, parce que j'ai participé aux travaux qui ont préparé la COP 21 à Bonn à deux reprises, les négociations bilatérales. La dame qui dirige le Fonds vert, pourquoi c'était une Tunisienne, nous lui avons posé la question au cours d'une réunion réservée aux experts. Dans ce Fonds vert, il y avait déjà 5 milliards, parce que c'est une contribution. Les États, les pays riches, amènent de l'argent dans le fonds. Il y avait déjà 10 milliards, promesse, mais il y avait déjà 5 milliards disponibles. Et la dame nous dit, directeur général, dit voilà, cet argent est disponible. Nous lui avons posé la question, est-ce que c'est réparti par pays? En disant, RDC, vous avez autant, dans les 10 milliards, le Cameroun, le Gabon, etc. La réponse est que le principe, c'est le premier arrivé, le premier servi. Et donc, si vous amenez vos projets en retard, qu'on a déjà vidé la caisse, eh bien, vous allez attendre le prochain tour. C'est pour cela que je dis qu'il faut que la RDC aille vite, soit en règle.
Voilà.
Et donc, l'argent est disponible. Mais on ne vient pas vous distribuer l'argent chez vous à la maison. Il faut présenter des projets et convaincre que ces projets ont un impact positif sur la lutte contre le changement climatique. Donc il y a des critères, il y a des formulaires,
c'est
la responsabilité du gouvernement. Voilà. Mais si le gouvernement congolais est en train de dormir ici, on ne fait rien, n'encourage pas les privés, parce que même le secteur privé peut accéder à ce fonds. Tu vois les mécanismes qui sont bien établis.
Ouais.
Allez au ministère de l'Environnement, on va vous expliquer tout ceci. Et donc l'argent est disponible. D'ailleurs, le Brésil a déjà pompé, piqué une bonne partie de cet argent. Voyez-vous, il y a des pays africains comme le Mali, etc., qui ont introduit des projets. Le Rwanda a introduit des projets. On est en train de distribuer déjà cet argent-là aux pays qui présentent des projets. Vous devez avoir la capacité d'absorption de l'argent qui est mis à votre disposition.
Voilà.
Donc, si la RDC traîne ici dans des querelles internes, eh bien, on ne va pas accéder à cet argent. J'ajoute. La Norvège, dernièrement, a mis à disposition de la RDC 200 millions de dollars. La RDC.
Oui.
Mais cet argent, il faut présenter des projets pour que la Norvège donne cet argent. Il y a eu de l'argent qu'on a reçu au cours des dernières années dans les projets, je ne sais pas, pour régler ce problème. Mais cette fois-ci, c'est une mobilisation mondiale pour dégager un fonds beaucoup plus important parce que c'est la survie de toute l'humanité qui en dépend. Je termine sur un point
rapidement
qui a été soulevé par Franck en disant bon, mais comment arriver au niveau de la population? Et donc, Franck, il faut toute une culture maintenant. C'est le rôle de l'État, de nos provinces, des administrateurs du territoire, des bourgmestres au niveau local, pour dire à la population comment vous devez vous comporter pour arriver à faire de l'hygiène publique, comment vous devez protéger, comment vous devez améliorer notre milieu. Qu'est-ce que signifie l'environnement? Le terme environnement, c'est l'espace où l'homme vit. C'est ça l'environnement, en fin de compte. C'est ce que j'ai dit toujours à mes étudiants. Il ne faut pas vivre dans l'abstrait. Imaginez que l'environnement, c'est au ciel, ou en enfer, ou dans le paradis. L'environnement, c'est comme le studio où nous sommes avec vous, de Radio Capi. C'est les bureaux où nous travaillons ici avec vous. C'est nos quartiers où nous vivons. C'est nos villages. C'est nos villes. C'est ça l'environnement. C'est l'espace où vit l'homme. Et c'est cet espace-là qui fait que l'homme peut être en bonne ou en mauvaise santé parce qu'il vit dans un environnement, soit propre, soit sale. Donc, il faut être pragmatique. C'est ça l'environnement qu'on veut protéger.
Ouais.
Donc, c'est la culture. Il faut la culture des poubelles publiques, dire à la population de ne pas jeter des saletés dans les caniveaux, etc., etc. C'est une nouvelle culture environnementale qu'il faut imposer dans la population. L'État a une grande responsabilité.
Voilà. Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Vous avez suivi les uns et les autres parce qu'il faut permettre au professeur de dire un mot sur les livres qui parlent de l'environnement qu'il a écrit. Omar, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierre. Bonjour, professeur.
Et en une minute, votre intervention.
Merci Pierrot, d'habitude je parle trop, mais je vais m'adapter au temps parce que nous sommes à la fin. J'ai fait mieux toutes les interventions pertinentes du professeur, mais je pense Pierrot, et je l'ai dit de tout mon cœur, que la ratification n'est pas une solution efficace. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Nous avons en ce jour ratifié plusieurs traités, la convention de Maputo, des bassins du Congo, la convention de Berlin, la convention de Brésil de Rio. Cela ne suffit pas. Il y a encore la bonne volonté des États pollueurs. Aujourd'hui, les principes ont changé. Ce n'est plus pollueur, mais c'est payeur pollueur. Comme il pollue plus, comme il paye plus, il pollue plus. Deuxième chose sur le plan interne. On n'en a pas fait, disons, Pierrot. Sur le plan interne, il y a des lois qui existent. Qu'est-ce qu'on fait des voitures qui dégagent des gaz carboniques chaque jour? Qu'est-ce qu'on fait des fumeurs qui polluent la nature? il est démontré scientifiquement que filmer en public est interdit. Il y a même des conventions cadres que nous avons ratifiées. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait des antennes cellulaires qui polluent l'environnement, qui peuvent rendre dans 50 ans des gens stériles? Qu'est-ce qu'on fait de ces brassicoles aujourd'hui qui déversent les déchets dans l'eau et ça peut provoquer les choléras et etc. Ces mécanismes ont été démontrés par les grands environnementalistes pour dire que ça existe. Au Sénégal, par exemple, il y a une loi qui interdit de filmer en public. Il y a des professeurs d'université qui filment à l'université.
Oui, mais rappelons quand même ici aussi qu'il y a une mesure du ministère de la Santé qui interdit aujourd'hui en RDC, qu'il y a des espaces qu'on a déjà, nous avons fait un débat autour de ça, des espaces fumeurs, des endroits où on ne peut pas fumer. Mais vous estimez que la ratification n'est pas une question d'efficacité, mais c'est un problème aussi des politiques internes. Merci beaucoup, Omar, professeur. Dommage qu'on n'a pas beaucoup de temps. Placez les mots et dites-nous peut-être en deux, trois lignes ces livres liés à cette question de l'environnement que vous avez écrit rapidement.
Oui, d'abord, j'ai rédigé ce code, un livre de 983 pages, et dans ce livre, j'ai rassemblé toutes les grandes conventions internationales dont Maître Omar vient de parler, les plus importantes. Les grandes déclarations des Nations Unies, la Charte mondiale de la nature, le programme de développement durable à l'horizon 2030 avec les objectifs de développement durable, les 17 objectifs, qui sont des documents très importants, les grandes conventions. L'Afrique centrale avec la Convention de Brazzaville sur la protection de nos forêts, et puis le droit congolais lui-même. Toutes les grandes lois en matière de protection de l'environnement adoptées au cours des dernières années par notre pays, notamment la loi sur l'eau, la loi sur la conservation de la nature, le code forestier, etc., les décrets sur les installations classées, etc. Et tout cela avec des commentaires pour expliquer pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif, etc. Donc c'est un livre important comme Confiance a dit qu'il faut la formation. Il faut donner aux fonctionnaires nationaux et internationaux des documents de travail, des textes. Ça ne sert à rien de voter des lois et de les garder dans le pouvoir. Il faut les remettre aux fonctionnaires qui sont chargés de l'application.
Merci,
des
professeur.
Donc, pour arriver à la culture environnementale, il faut que les gens connaissent les lois et les règlements à la matière.
Merci, professeur. La matière sur l'environnement ne peut pas être traitée dans une seule mission. On peut avoir peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Merci à toute l'équipe des productions, à Julie Pézaï, Kieto, Sandar, Gir, Lumiembo, à la réalisation et coordination de ces magazines, présenté par Pierre Lamagi sous la supervision de Martin Sebouzango. On se retrouve le lundi pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. On vous souhaite d'agréables moments en compagnie de Radio Capi. Au revoir.